un verre entre amis, rien de mieux que le bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.
Hey, ta dernière découverte artistique date de 2003.
Aïe, tant que ça change.
Moi, c'est Morin.
Clopergaille.
On est porte-parole du 21e festival Vue sur la relève.
Découvre avant tout le monde les grands noms de demain.
Une programmation originale et audacieuse qui reflète les tendances de l'heure en art de la scène.
Du 5 au 16 avril, lâche ton ordinateur et viens voir des shows.
$12 pour 2 à 4 spectacles par soir.
Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québécois.
Visite vuesurlarelève.com.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca.
Micro-cravate.
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 Micro.
Micro-cravate.
Vous écoutez Micro-cravate, l'émission de reportage et création sonore qui se balade entre Bruxelles et Montréal. Aujourd'hui, sortez les mouchoirs. Micro-cravate fait sa dernière émission, avant de se mettre en off, du moins pour l'été. On retrouvera Sophie, toujours prête à plier bagages avec la série Sweet As, et Gauthier, qui nous gratifiera d'un « Alors heureuse » sur la fin. La fin d'une émission ? Non, la fin au ventre, comme toujours. Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de choc pour ce 29e numéro de Micro-Cravate. Avec vous, Anna Massé et Gauthier Piatek, toujours derrière la console. Salut Gauthier.
Salut Anna, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 17 avril et aujourd'hui, on dit bye bye.
Que nos esprits s'épanouissent.
On part une dernière fois en Nouvelle-Zélande avec Sweet As, la série créée par Sophie Poisson. Ce mois-ci, elle partage avec nous sa rencontre avec Romain, un Français de 27 ans qui s'est installé un an chez les Kiwis grâce à un permis vacances-travail. Sophie l'a rencontré à la fin de son séjour et il faut reconnaître que cette interview a un petit coup de bilan. On écoute.
L'Islande,
Mexico,
Suisse,
Russia,
Ireland,
Angleterre,
China,
une fois le Canada,
Lithuania,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Sweet As.
Quand j'étais plus jeune, je suis allé en Angleterre, en Irlande, en Italie, en Suisse. J'ai fait la frontière espagnole aussi, mais je suis pas allé bien loin. Et là, plus récemment, j'ai fait l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
Et alors, quel est celui qui te laisse le plus de souvenirs ?
L'Australie, dans sa partie ouest principalement. C'est-à-dire que l'Australie, on pourrait dire qu'elle est coupée en deux avec la partie est qui est très civilisée, parfois très touristique, comme la Grande Barrière de Corail, et la partie ouest qui est encore très très sauvage. C'est-à-dire que c'est civilisé, il y a toujours des villes, des villages, mais sont parfois espacés de plus de 500 km, donc il y a un grand rien entre les villes et les villages. Parfois les routes ne sont même pas goudronnées, donc on est sur des chemins de terre. Et quand il y a un chemin de terre, parfois on est content. Mais l'Australie est un pays qui est très civilisé, mais qui est très dépaysant sur la côte ouest, malgré tout.
Lorsque nous sommes rencontrés, tu habitais Cambridge. Comment décrirais-tu cette ville ?
Cambridge, c'est le petit village anglais perdu en Nouvelle-Zélande. Enfin, perdu, c'est peut-être pas le mot exact parce que c'est juste à côté de Hamilton, qui est quand même la quatrième ville de Nouvelle-Zélande. Mais ouais, c'est une petite ville néo-zélandaise qui se prend pour un village anglais en fait, avec son petit marché le dimanche, sa petite rue principale, son town hall, son hôtel de ville. C'est assez joli, c'est assez fleuri, assez coloré, c'est sympathique. On a parfois une météo anglaise d'ailleurs qui vient avec. Et ouais, après c'est assez proche de Hamilton, qui est la quatrième ville de Nouvelle-Zélande, je l'ai dit, mais qui est surtout très très industrielle. C'est-à-dire que c'est pas un endroit très très touristique, mais c'est assez actif pour les travailleurs et dans le secteur de l'industrie. Donc c'est pas forcément l'endroit où on passerait. Sinon peut-être en allant vers Hobbiton à côté, qui est le village des Hobbits où Peter Jackson a tourné ses 6 films, qui est juste à côté de Cambridge, quelques kilomètres, une vingtaine je crois.
Alors, tu es venu en Nouvelle-Zélande avec un Working Holiday Visa. Pourquoi avoir choisi la Nouvelle-Zélande ?
À la base, c'est pas la Nouvelle-Zélande que j'ai choisi, c'est l'Australie. Et j'avais la possibilité en Australie de prolonger ce visa d'un an supplémentaire. C'est-à-dire que le visa de base était un an. Et si j'effectuais certains travaux en ferme ou à la campagne, je pouvais avoir un an de plus. Donc j'ai fait mes 2 ans en Australie et ensuite je me suis dit que vu que j'étais dans cette partie du globe, autant aller faire un tour en Nouvelle-Zélande qui offrait la même possibilité de visa et surtout en plus du travail, ça permet de voyager, c'est-à-dire que c'est un système qui est très simple, qui est réalisé par plein de backpackers, comme on les appelle, les porteurs de sacs à dos. C'est on travaille, on économise un peu, on voyage, donc on va aussi loin que notre budget, notre argent le permet, et quand on arrive à la fin du budget, on se pose dans la ville la plus proche et on travaille à nouveau, et après quelques semaines, quelques mois, on peut repartir à nouveau en voyage avec le van, le 4x4 ou même la voiture qu'on a achetée ou louée sur place.
Quel type de travail justement on peut trouver ici en Nouvelle-Zélande ?
On peut trouver un peu de tout, ça peut aller dans le travail dans la restauration, hôtellerie, c'est assez courant. Ce que j'ai remarqué pour ces travails-là, travailler dans l'hôtellerie ou la restauration, c'est pas forcément considéré comme un boulot à temps plein ou un boulot à part entière. C'est-à-dire que c'est très saisonnier, il y a beaucoup plus d'activités en été qu'en hiver. Et une expérience de base est pas forcément nécessaire, puisqu'ils considèrent ça plutôt comme un petit boulot qu'on fait pendant les études, pendant les voyages, ou comme ça pour arrondir les fins de mois, plutôt qu'un vrai travail qu'on a, comme nous par exemple, on a quelqu'un en France qui est serveur, qui est cuistot à temps plein, c'est son travail, c'est sa vie. Ici c'est un peu différent. Alors pour les cuistots, pas tant que ça, puisque si on connaît rien en cuisine, c'est plus dur de se mettre derrière les fourneaux, mais pour le service, c'est très fréquent qu'on ait des jeunes étudiants ou des voyageurs ou un peu n'importe qui donc travaille dans la restauration. Il est possible également d'être formé pour être barista, donc faire les cafés. C'est assez courant le barista en Nouvelle-Zélande. Après, il y a bien sûr travailler dans le bâtiment. Donc pour ça, j'ai entendu dire que Christchurch était très très en recherche d'ouvriers du bâtiment. Donc pareil, là encore, pas forcément d'expérience requise. Si c'est juste pour faire manœuvre de chantier, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une formation de maçon ou quoi que ce soit. Mais on peut faire ça, donc souvent par le biais des agences d'intérim. Et enfin, y a des villes comme Auckland ou Hamilton qui sont plus industrielles. Donc on peut faire les travaux d'ouvriers de base, voire d'assistant chef d'équipe, voir si on a suffisamment d'expérience, chef d'équipe, dans le domaine de l'industrie, oui.
Est-ce que ça se prépare quand même, un Working Holiday Visa ?
Je dirais que le premier, il se prépare. Les autres, après, on tomberais presque dans une forme de routine en fait. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait le premier, parce qu'on est paumé au début, faut dire ce qu'il y a. On a beau avoir lu un paquet incroyable de forums, de posts Facebook, le premier réflexe, je me rappelle, que j'ai eu et que beaucoup d'autres gens ont eu, quand on arrive dans le pays, c'est de se dire bah, je m'attendais pas à ça. En fait, c'est ça, on s'attend jamais à ça. Ça, c'est pour le premier. Après, pour la suite, par exemple, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il y a quand même beaucoup de similitudes. Je vais pas trop dire ça parce que ça va pas plaire aux Néo-Zélandais ni aux Australiens, mais il y a quand même beaucoup de similitudes dans le fonctionnement des administrations, comment ouvrir un compte en banque, comment s'installer, comment avoir un chez soi, comment réserver une chambre dans un backpacker hostel, comment ça se passe pour chercher du travail, comment ça se passe pour acheter un véhicule, comment ça se passe pour voyager dans le pays, comment je gère mon budget. Comment ça se passe si j'ai un problème avec la voiture aussi? Des choses, quand on est en France, qu'on habite à côté de chez soi, y a pas de voiture, il n'y a pas de voiture. Mais en Nouvelle-Zélande, quand on est à 10 000 km de la famille et des amis, et que la voiture elle tombe en panne, et qu'on peut pas forcément continuer le voyage, ou qu'on peut pas forcément aller au travail le lendemain parce que la voiture elle démarre plus, c'est une autre paire de manches en fait. Donc c'est tout un tas de situations qui sont nouvelles, mais auxquelles on s'habitue, et au final on tombe dans ce genre de routine, oui. Et après, ça va mieux, mais c'est vrai que le premier réflexe, c'est je m'attendais pas à ça.
Et alors, ton voyage en Nouvelle-Zélande touche à sa fin. Quelle va être ta prochaine destination ?
La France. Non, ça fait 3 ans que je suis parti là. Et j'expliquais juste avant cette histoire de routine qui s'est installée, et il y a ce côté aussi de fatigue, parce que on a beau prendre un appartement, on a beau avoir sa voiture, son travail, aller au travail tous les matins, c'est difficile de se sentir chez soi, surtout quand on bouge on reste un moment, si on bouge tous les 3-4 mois. Ce qui peut paraître déjà long, parfois on va rester 6 mois, 1 an dans une ville. Mais même quand on doit encore bouger au bout de ces quelques mois, ou au bout de ces 1 an, parce que c'est souvent le maximum 1 an qu'on peut faire, il faut tout reprendre à zéro à chaque fois. Et parfois on repart avec un budget qui est à zéro, on repart avec des moyens qui sont à zéro. Et à tout reprendre, c'est un éternel commencement. Et ça fatigue à force, ça m'a usé un peu, on va dire, même si j'ai beaucoup apprécié. Et là, je pense qu'il est temps de se poser et d'arrêter cet éternel recommencement.
cravate.
Pour clore cette saison, Gauthier revient avec un nouvel épisode de « Alors, heureuse », cette fois-ci consacré à la faim. Ayant peut-être loupé le mémo, il préfère nous parler de celle qui s'exprime depuis nos estomacs. On écoute tout de suite cet objet sonore lofi et un peu bête.
Alors, heureuse ?
J'ai le ventre qui gargouille.
Oh, ça, c'est la faim.
La faim est une sensation qui se produit quand le niveau de glycogène dans le foie tombe sous un certain niveau, précédant habituellement le désir de manger. Cette sensation provient de cellules sensibles à une très faible chute de la glycémie, localisée dans l'hypothalamus, puis est libérée par des récepteurs dans le foie. Bien qu'un être humain puisse survivre plusieurs semaines sans manger, et bon, c'est pas facile, la sensation de faim commence en général après quelques heures sans manger. D'ailleurs, je me ferais bien un casse-croûte.
Tu as travaillé toute la journée, mais tu n'as pas mangé. Tu te retrouves dans une soirée, mais tu as faim. Tu rentres chez toi exténué, mais tu n'as pas mangé. Tu cherches dans le frigo vidé, mais tu as faim. Tu as décidé de te coucher, mais tu n'as pas mangé. Tu te mets à rêver de plats grassouillés, mais tu as faim.
En fait, j'ai rencontré trop, toi, le mec. Et c'est pour ça que j'ai dit, bah oui, le gars, je serais content. Je suis tout en main, dans les bas. Moi, j'aime pas ce genre de truc. Et du coup, le gars, il me dit, viens, on va te tenir et tout. J'ai dit, ah, vas-y, bah, vas-y, raconte et tout, tu vois. Et le mec, il me dit, en fait, il me dit que, genre, tu vois, il a acheté la baffe, il... Puis en fait, c'est ça, dans le fond, quoi. Enfin, mais en fait, j'en ai jamais trouvé un comme ça. Donc, enfin, voilà. C'est ça, quoi. Enfin, tu vois, genre, quoi.
Attends, quoi ?
Brian.
Mr. Bryle. Mr. Bryle. Ben, il avait toujours été un solitaire, un type réservé. Pas du tout chaleureux ou agréable, même. Moi, il me foutait la trouille, tout simplement.
Je savais que j'aurais affaire à lui un jour ou l'autre, donc je... J'ai essayé d'établir une sorte de relation, voyez-vous. Chaque fois qu'il venait au magasin, je souriais, j'essayais d'établir la conversation. Mais il me répondait presque jamais. Son regard me... glaçait le sang, ça. Donc j'ai peu à peu abandonné toute tentative de rapprochement. Les jours se suivaient, il continuait à venir faire ses emplettes. Je me suis mis à l'ignorer, un peu comme tout le monde. Puis est venu le jour où... Mr. Bryan m'a croqué l'orteil.
Pas de femme ni d'enfant. Mais il avait bien un petit chien noir, puis dessus il était écrit Chien de Mr. Bryan, prière de ne pas toucher.
Ouais, j'ai connu Mr. Bryan, il était là à mourir.
Et le camion du laitier nous attendait un peu plus loin sur la route. La rencontre fut, comment dire...
Saisissante. Mr. Bryan m'a croqué l'orteil ce jour-là. Deux fois plutôt qu'une. C'est un perfectionniste.
Au pays, les deux jambes amputées. Pendant la guerre, les deux jambes amputées. Monsieur Bryan m'a croqué l'index.
Thank you.
Croquer l'orteil de Mr. Brian.
Croquer l'orteil de Mr. Brian.
Croquer l'orteil du croque mort.
On a croqué l'orteil du croque mort.
On a croqué l'orteil de Mr.
Brian. On a croqué l'orteil de Mr. Brian. On a croqué l'orteil de Mr. Brian. On a croqué l'orteil du croque mort.
Avant de se quitter, une petite chronique de Gauthier, agrémentée d'anecdotes croustillantes et de révélations incroyables.
Qui c'est ce tocard ?
C'est Nox.
Cravate de pecno, aucune classe.
Micro-cravate.
Alors, comme le dit si bien le ménestrel de la télécommunication Jean-Louis Aubert, voilà, c'est fini. Bon, on se quitte comme ça, un peu la larme à l'œil, mais on n'est pas mort pour de vrai. Micro-cravate prend un repos bien mérité, ou presque, car l'équipe est en proie à des doutes et souhaite se ressourcer, essayer de prendre des vacances ou peut-être tout simplement est vachement occupée à gagner un peu de sous à la sueur de son front. Alors oui, micro-cravate, c'est des techniques ancestrales, des rushs de dernière minute et des engueulades et des rigolades, des soucis techniques et des heures passées à couper, découper et coller des petits bouts de son pour que ça soit mignon. Voilà quand même le moment rêvé pour vous révéler des petits secrets de fabrication qui permettent d'avoir ce résultat improbable d'une émission transatlantique mais sympathique. Alors, Anna a toujours besoin que je lui raconte une blague de Toto avant de prendre l'antenne, afin de rire à gorge déployée et de permettre à toi, auditeur, de bénéficier de sa voix de velours. Les créations sonores qui ponctuent l'émission ne peuvent être réalisées que si les astres s'alignent correctement et que le journaliste est de signe astrologique taureau. Enfin, pour ma part, ma décontraction et mon aisance au micro sont dues au fait que j'assure chaque émission entièrement nue, mais coiffée d'un bonnet. Cette condition sine qua non a toutefois surpris notre directeur de la programmation au début, mais depuis, on peut dire que j'ai instauré une mode des dimanches tout nus qui compte chaque jour de plus en plus d'adeptes. Alors, voilà, c'est fini, mais peut-être pas pour toujours. Alors, je voulais quand même remercier toute l'équipe qui nous écoute depuis le Québec, l'Europe ou ailleurs, mais aussi te remercier toi, auditeur, pour ta patience, ta fidélité, et aussi pour l'argent que tu nous envoies en petites coupures tous les premiers samedis du mois. Ça me fait très très plaisir. Ave micro-cravate, ceux qui te façonnent te saluent.
Micro-cravate.
C'était donc Micro-Cravate. On salue les journalistes et créateurs sonores fidèles au micro, ainsi que tous ceux qui sont déjà en terrasse.
Des chanceux.
Micro-Cravate, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve bientôt pour de nouveaux tripatouillages sonores. D'ici là, retrouvez les podcasts de l'émission sur choc.ca et plus de sons et reportages sur le site microcravate.com. À 17h, vous avez rendez-vous avec Mutation. Très bonne fin de semaine sur Choc.
Un bon dimanche.
I need two words.
Ok.
Micro cravate.
Chazal zura, mi mistal zel betuch, ufi chazal zura. Ọjọ́ wo lẹ máa ṣe yí gbàjẹ́? This farewell was preempted, left the knots loose and dead. Then the stale hot, didn't mean to just drop a word. I was hackled by the clock, it hit me like a drone. No humanity, had to show face, let me taste grace. I was never here for power, empathize the struggle. It's osmotic, now we're not a 1,000 gallons of a non-topic. I cannot stop. As far as life goes, blossoms indefinitely. Every step closer to death is a step closer to breath. Exhale together, dissipate, evaporate, change form, become energy. You are. Thank you.
underworld is why you got a mystical obsession. Why the old man's limit gimmick? Got it, you should get it. You can knock it, but you with it. We much and they teach us ignorance who completes us. No object, they beat us 365 in the blink. Lifespan, what you think? It don't take much to say.
Que le bar Grenade au coin de la rue Ontario-Est et Champlain. Le bar Grenade, une brasserie orientale tendance et branchée dans Ville-Marie. Avec nourriture d'inspiration asiatique, c'est l'endroit idéal pour vos 5 à 7 qui se terminent aux petites heures du matin. De plus, venez assister une fois par mois aux soirées luttes de choc.ca. Sans oublier de venir nous voir aux soirées Full Moon Party thaïlandaise lors des soirs de pleine lune. À quelques pas de la station Papineau, pour une ambiance explosive, le bar Grenade au 1603 rue Ontario-Est à Montréal.